Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Castleman et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Eric Oxenendler. Professeur Oxenendler, bonjour.
Bonjour.
Professeur Oxenendler, vous êtes professeur des universités à la Faculté de médecine de Paris et praticien hospitalier, chef du service d'immunopathologie clinique à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes également coordonnateur du Centre de référence national maladie de Castleman et vous avez coordonné le récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, dédié à la maladie de Castleman sous l'égide de la filière Marie. Alors, professeur Oxenendler, ma première question est très simple. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots ce qu'est la maladie de Castleman ?
Alors, en fait, il n'y a pas une seule maladie de Castleman, mais plusieurs maladies de Castleman. On en distingue le plus souvent trois types. Alors, la première forme est celle qui a été décrite par Benjamin Castleman dans les années 50. Il s'agit d'une maladie rare mais non exceptionnelle, qui se présente le plus souvent comme un gros ganglion, une adénopathie localisée, isolée. C'est ce qu'on appelle le plus souvent la maladie de Castleman unicentrique. La deuxième est une maladie systémique. Il s'agit de la maladie de Castleman qu'on appelle disséminée ou multicentrique. Et là, on en distingue encore deux types. L'un est associé à un herpès virus, le virus HHV8, que l'on considère comme responsable de la maladie. Et l'autre, pour le moment, n'a pas de cause connue. Elle est donc considérée comme idiopathique.
Et quelles sont les circonstances de diagnostic les plus fréquentes de ces maladies de Castleman ?
Alors, elles sont assez différentes. En ce qui concerne la maladie de Castleman unicentrique, elle est diagnostiquée le plus souvent après la constatation d'une adénopathie sans autres symptômes associés, parfois par autopalpation, par le patient. Parfois, la découverte est fortuite à l'occasion d'un examen radiologique pratiqué pour une autre raison. Dans certains cas, la maladie de Castleman unicentrique est également découverte lors de l'évaluation d'une de ses complications, une maladie dermatologique, pemphigus paranéoplasique, qui est une complication rare mais redoutable de la maladie de Castleman unicentrique. En ce qui concerne la maladie multicentrique, la situation est très différente. Le diagnostic est le plus souvent évoqué devant une altération de l'état général, souvent avec de la fièvre, des adénopathies, parfois une splénomégalie, et la présentation initiale évoque en premier lieu un lymphome. Biologiquement, le tableau associe en général une anémie inflammatoire avec un taux élevé de la CRP ou de la vitesse de sédimentation, et fait plus notable assez souvent une hypergammaglobulinémie polyclonale, ce qui est inhabituel dans d'autres circonstances. La forme associée à HHV8, peut être suspecté devant la présence de lésions de Kaposi, maladie également associée à ce virus. Et elle peut être suspectée a fortiori, mais pas exclusivement dans un contexte d'infection HIV où cette maladie est plus fréquente. Dans tous les cas, toutefois, c'est l'examen anatomopathologique du ganglion, de la biopsie, qui sera la clé de voûte du diagnostic. Cet examen va montrer un ganglion dont l'architecture est globalement conservée, avec des anomalies des centres germinatifs, avec des lésions d'hypervascularisation, et dans la forme multicentrique, souvent une infiltration par des plasmocytes. Le point important, c'est qu'il n'y a pas de cellules tumorales, ce qui distingue vraiment cette maladie d'une pathologie tumorale et qui permet de la considérer toujours comme une maladie bénigne. En ce qui concerne la maladie associée à HHV8, finalement, le diagnostic est relativement facile dans la mesure où on dispose d'une immunohistochimie spécifique qui va permettre de détecter les cellules infectées par HHV8.
Alors maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement à la prise en charge de ces patients, quelles sont les prises en charge possibles de ces maladies de Castleman ?
Comme pour les circonstances diagnostiques, la prise en charge et les traitements sont très différents en fonction des formes. Pour la maladie unicentrique, c'est assez simple, le traitement il est chirurgical. Quand l'exérèse est complète, la guérison est quasi assurée. La difficulté, c'est que cette chirurgie d'exérèse totale n'est pas toujours possible en raison de la localisation du ganglion. Pour la maladie de Castleman associée au HHV8, la situation est différente, la chirurgie ne sert à rien, et le traitement repose essentiellement sur une immunothérapie avec des anticorps monoclonaux qui visent à détruire les lymphocytes B. Avec ce traitement, on est capable d'obtenir des rémissions prolongées, le plus souvent de plus de 70%, pour plus de 70% des patients. Mais il faut savoir quand même que les rechutes sont possibles et à nouveau accessibles à ce traitement. Le problème le plus difficile, c'est celui de la maladie de Castleman, qu'on appelle idiopathique, qui lui aussi fait appel à des biothérapies avec des anticorps monoclonaux, mais cette fois-ci avec des anticorps qui visent une interleukine ou son récepteur, l'interleukine 6. L'interleukine 6 ou IL-6, c'est une cytokine qui est directement impliquée dans la physiopathologie de cette maladie et en particulier du syndrome inflammatoire. Alors là, on a un traitement de première ligne qui est très efficace, qui est suspensif et donc doit être maintenu pour une durée qui, à ce jour, reste inconnue. On ne sait pas si on va pouvoir, pour un malade donné, suspendre ce traitement à un moment donné.
Alors, professeur Oxenhandler, au niveau national, vous coordonnez le centre de référence maladie de Castleman, mais il existe en France un véritable réseau maladie de Castleman. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors on a beaucoup de chance en France, hein, et beaucoup de pays européens en particulier nous envient cette chance. On a la chance d'avoir sur le territoire un réseau de centres de référence pour un grand nombre de maladies rares. Alors l'hôpital Saint-Louis à Paris coordonne le réseau pour la maladie de Castleman, et ce réseau comprend également des centres de compétences en région, hein, comme Lille, Marseille, Bordeaux, Dijon, et également des centres pédiatriques. Alors, l'objectif de ce centre de référence, comme pour les autres centres de référence maladies rares, c'est essentiellement de diffuser de l'information en direction du personnel soignant, mais aussi des patients, quels que soient les moyens utilisés. Nous, on utilise un site internet, www.castleman.fr, qui a du contenu à la fois, comme je viens de le dire, pour le personnel soignant et les patients. On essaye également d'établir un registre sur la base du volontariat des patients et puis surtout d'établir des recommandations générales pour la prise en charge et également d'offrir la possibilité d'un avis spécialisé par ce qu'on appelle des RCP, c'est-à-dire des réunions multidisciplinaires où on examine au cas par cas les différentes situations.
Dernière question, professeur Oxenhandler, pour conclure notre entretien. Quelles sont les perspectives à venir, voire les pistes de recherche qui existent pour ces maladies de Castleman ?
Alors, dans les perspectives, vous avez signalé le PNDS. Un des objectifs principaux pour les mois à venir, c'est de diffuser nos avis, nos recommandations de prise en charge à travers ce programme national de diagnostic et de soins, qui est donc publié sur le site de la Haute Autorité de Santé et disponible en ligne. Il s'agit également d'enrichir et d'analyser les données de notre registre national qui comprend à ce jour près de 500 patients et de participer également à un registre international et puis bien sûr d'animer une équipe de recherche. Je dois dire que les travaux de cette équipe sont essentiellement axés sur la recherche des causes de la maladie Castleman unicentrique et de la maladie Castleman idiopathique. Bien entendu, avec l'espoir de trouver, comme pour d'autres maladies hématologiques maintenant, des cibles pour des traitements plus personnalisés, plus ciblés que les traitements éventuellement encore disponibles aujourd'hui. Alors bien sûr, ces travaux de recherche ont besoin de soutien, non seulement des soutiens financiers, mais aussi d'avoir accès à des prélèvements biopsiques.
Eh bien, merci mille fois, professeur Oxenhandler, de nous avoir fait mieux connaître ces maladies de Castleman. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de ces pathologies, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur la maladie de Castleman. À très vite.